Nous sommes le mardi 6 septembre 2016. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un coup de théâtre hier au tribunal correctionnel de Paris. Pour son premier jour de procès, Jérôme Cahuzac a révélé que son premier compte en Suisse aurait été ouvert pour le financement occulte du courant politique de Michel Rocard.
Un coup dur pour Nicolas Sarkozy. À 2 mois de la primaire à droite et à 8 mois de la présidentielle, le parquet de Paris requiert son renvoi en correctionnel dans l'affaire Big Malion.
Les terroristes du groupe État islamique acculés, privés de débouchés vers la frontière turque depuis la Syrie, ils ensanglantent désormais la Syrie justement par des attentats suicides coordonnés. À 7h12, le billet Écho, Guillaume.
Celui de Marie Viennot, le bilan économique de la présidence Hollande, puis le sujet du jour, la crise des migrants et ses conséquences politiques, et enfin la question du jour au Gabon, qui dit vrai ?
Une déclaration explosive. Dès l'ouverture de son procès pour fraude fiscale, Jérôme Cahuzac s'est expliqué sur son premier compte en Suisse, ouvert en 1992. Il aurait servi à financer le courant politique de Michel Rocard. Petit rappel chronologique, Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget de François Hollande, fut également membre du cabinet de Claude Évin, ministre de la Santé de Michel Rocard jusqu'en 91. Et toujours, selon Jérôme Cahuzac, l'ancien premier ministre socialiste disparu en juillet dernier, ignorait tout d'un possible financement occulte. Les explications de Florence Turme.
Jérôme Cahuzac a choisi de parler et de parler de ce premier compte ouvert en Suisse au printemps 92 au nom de son ami Philippe Péninck, avocat fiscaliste aujourd'hui proche de Marine Le Pen. Le point de départ de tout, souligne le président, une erreur fondatrice, précise l'ancien ministre du budget. Les premiers virements alimentent le compte début 93, plusieurs centaines de milliers de francs. Ils proviennent des laboratoires pharmaceutiques Pfizer. Mais ce n'est pas le fruit de mon travail, poursuit Jérôme Cahuzac, ces sommes ne me sont pas destinées. Elles doivent servir au financement d'activités politiques pour un homme qui, j'espère alors, aurait un avenir national, Michel Rocard. J'étais jeune, enthousiaste, militant, se défend Jérôme Cahuzac. Nous étions à une période charnière, tout le monde faisait ça, et l'industrie pharmaceutique a servi à financer tous les partis politiques, tous. En réalité, l'argent destiné à la campagne présidentielle de 95 ne quittera jamais son compte suisse. La déroute du Parti socialiste aux législatives va marquer le coup d'arrêt des versements. Je n'y ai jamais touché. Alors pourquoi ces aveux tardifs ? Le prévenu répond sans hésiter. Je ne voulais pas faire de mal à Michel Rocard. Si je me décide à parler aujourd'hui, je ne crois pas que cela nuira à son héritage politique.
Florence Turme qui vous propose également un décryptage des enjeux du procès de Jérôme Cahuzac sur franceculture.fr, bibliographie sélective à la clé. Une autre affaire qui éclabousse la classe politique à droite cette fois, l'affaire Big Malion. À 8 mois de la présidentielle, le parquet de Paris a requis le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne électorale. Le procureur reproche à l'ancien chef de l'État d'avoir dépassé le plafond des dépenses électorales en 2012. Les juges ont maintenant 1 mois pour décider de suivre ou non cet avis du parquet. Si procès il y avait, il ne devrait pas se tenir avant la présidentielle. Mais déjà, Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, dénonce une manœuvre politique grossière et un acharnement envers son client. Pas de commentaires, en revanche, de la part d'Alain Juppé, François Fillon ou encore Bruno Le Maire, les principaux adversaires de Nicolas Sarkozy à la primaire de droite pour 2017. Mais il est un autre candidat, Jean-François Copé, qui se dit aujourd'hui soulagé, lui qui avait été cité à maintes reprises dans l'affaire Big Malion, mais jamais mis en examen. Jean-François Copé.
Cette réquisition qui a été prise par le parquet, elle vient confirmer mon innocence dans cette affaire, qui est appelée Big Malion, mais qui en fait est devenue l'affaire des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, et où j'avais été désigné coupable idéal par tous ceux qui pouvaient y avoir intérêt il y a 2 ans et demi. C'est tout perdu de ce point de vue, hein, en quittant la présidence de l'UMP, dans des conditions de violence, de haine, une espèce de procès public instruit sans magistrat par des responsables politiques ou des médias que ça arrangeait.
Deux mises en examen pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que simplement à titre moral, il peut se présenter devant des électeurs ?
Je n'ai pas à juger pour les autres. J'ai tellement souffert moi-même de la haine et de la violence que j'ai considéré que je devais sortir de tout cela. J'ai d'ailleurs regretté les propos de François Fillon qui était très agressif alors qu'il a été son Premier ministre pendant 5 ans, très agressif à l'égard de Nicolas Sarkozy. Je trouve que ce n'est pas très convenable. C'est Nicolas Sarkozy de dire ce qu'il doit faire ou ne pas faire. C'est aux Français de juger. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est que moi, si j'avais été mis en examen, et je l'ai dit publiquement, je n'aurais pas été candidat à la primaire. de la droite et du centre, parce que c'est l'idée que je me fais de l'éthique.
Jean-François Copé, joint par Ludovic Piétenu, et rendez-vous à 8h15 pour le billet politique de Frédéric Seyss, consacré ce matin aux conséquences possibles des affaires sur la campagne à venir. François Hollande est à peine arrivé au Vietnam pour une visite de 2 jours que déjà Airbus annonce la vente de 40 appareils à 3 compagnies vietnamiennes pour un contrat total de 6,5 milliards de dollars. La France, sans nouvelles de plusieurs de ses ressortissants au Gabon, exprime sa vive préoccupation. Communiqué du Quai d'Orsay hier, 5 jours après la réélection contestée du président Ali Bongo et les violences qui s'en sont suivies. Le Gabon qui a connu hier sa première défection de haut niveau dans l'entourage du président Bongo. Le ministre de la Justice a démissionné et demandé dans la foulée un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Ce que réclament également les partisans de Jean Ping, candidat battu à la présidentielle.
On reviendra sur cette question dans quelques instants dans la question du jour. En attendant, il est 7h06 sur France Culture, la suite du journal. Catherine Dutu, direction la Syrie, frappée par une série d'attentats suicides hier.
Attaque à la bombe commise simultanément dans plusieurs villes. Homs, Al-Sabura, Asaké, une ville située au nord-est de la Syrie, tenue quasiment entièrement par les milices kurdes. Également à Tartous, un bastion sur la Méditerranée du régime du président Bachar al-Assad. Des dizaines de morts dans les rangs de l'armée, au sein des milices pro-régime, mais également chez les combattants kurdes. Cette recrudescence d'attentats suicides s'accompagne d'un réel recul du groupe État islamique sur tous les terrains militaires qu'il occupe. L'analyse de Luc Lemonnier.
Dans les 3 pays gangrénés, Syrie, Irak, Libye, 3 villes représentent en quelque sorte le thermomètre de l'état de santé de Daesh. Raqqa, Mossoul, Sirte, elles furent ces dernières années les capitales autoproclamées du groupe djihadiste. Et elles sont une à une en train de tomber, sous la pression de forces disparates, alliées ou pas, forces gouvernementales, combattants rebelles, Peshmerga kurdes, chars turcs et chasseurs-bombardiers de la coalition. En Syrie, la fermeture de la frontière turque qui prive Daesh d'une porte d'entrée et d'approvisionnement, ainsi que la chute des villes de Kobané, Jarablus ou Manbij, ouvre maintenant la voie à la reconquête de Raqqa, plus au sud, vers laquelle les djihadistes en déroute se replient. En Irak, c'est Mossoul qui est dans le viseur. Là aussi, la ville est symbolique. 2e ville du pays, 2 ans sous drapeau noir, 1,5 million d'habitants et maintenant quasiment isolée depuis les chutes de Kayara et Fallujah. Le premier ministre irakien se donne quelques mois pour faire tomber la place forte. En Libye, c'est Sirte le symbole. Daesh ne tient plus qu'un seul quartier de la ville encerclé. Les derniers snipers vont se transformer en kamikazes. Une affaire de jours, promet le gouvernement libyen.
En Afghanistan, à présent, 1 personne tuée et 6 autres blessées au moins dans l'attaque contre une ONG à Kaboul, attaque toujours en cours. La capitale afghane cible d'une série d'attentats hier revendiqués par les talibans, au moins 24 morts. Au Royaume-Uni, premier discours hier du ministre du Brexit devant le Parlement britannique. Après les dissensions internes au gouvernement ces dernières semaines et face à l'incertitude des investisseurs, David Davis a tenté de rassurer le Parti conservateur tout en entretenant le flou sur les modalités de sortie de son pays de l'Union européenne. La correspondance à Londres d'Antoine Gignot.
Il a failli donner des détails, David Davis.
Les gens veulent savoir ce que le Brexit implique.
Et puis finalement, rien.
Ça signifie simplement qu'on va quitter l'Union européenne.
Une seule précision, le coup d'envoi de la procédure pour quitter l'Union, ce sera au début de l'année prochaine, en douceur, explique le ministre. Le Royaume-Uni va conserver une coopération militaire et des accords de police, et il y aura une grande vague de consultations avec des politiques, des patrons, des chercheurs, pour tenter de concilier l'inconciliable, fermer les frontières tout en les laissant ouvertes.
Il faut qu'on contrôle le nombre de personnes qui arrivent d'Europe et qui viennent en Angleterre, mais il faut aussi quelque chose de positif pour ceux qui veulent faire du commerce, de biens et de services.
Car derrière le ton rassurant, cette question de l'immigration et du commerce continue de diviser. Theresa May, la première ministre, l'a dit hier, elle n'acceptera aucun critère automatique qui permette à un étranger de s'installer au Royaume-Uni. D'autres, comme le ministre des Finances, sont prêts à accepter des règles plus souples pour garder l'accès au marché commun. Dans les semaines qui viennent, les membres du gouvernement vont s'envoler rapidement pour Dublin, Washington et Bruxelles. Pas sûr qu'ils parlent tous d'une seule et même voix.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Et puis, on avait perdu sa trace après un atterrissage historique, mais surtout mouvementé sur la comète Chury. C'était en novembre 2014. Le robot Philae a été localisé sur le petit corps glacé par la sonde européenne Rosetta à moins d'1 mois de la fin de sa mission, Sophie Becherel.
coincé dans une faille de la comète, très à l'ombre, et surtout posé sur le flanc, avec deux pieds en l'air et les antennes orientées vers le sol, c'est exactement comme cela que l'avaient imaginé les scientifiques, et tel qu'il apparaît sur une photographie prise par Rosetta, la sonde qui continue d'étudier la comète jusqu'à la fin du mois. Rosetta a retrouvé l'aventurier spatial en le survolant à 2,7 km d'altitude. L'incapacité de Philae de communiquer est donc confirmée, il parlait à la comète au lieu de parler à Rosetta. Ceux qui ont longtemps tenté de le réanimer depuis Toulouse ne sont pas déçus. Philippe Godon est responsable de Philae au CNES.
Ce qui aurait été décevant, c'était de ne pas le trouver là où on pensait l'avoir identifié, pas le retrouver du tout à la surface, en se disant peut-être que la comète l'a expulsé, n'étant pas attaché à la surface, ou alors il avait été recouvert de poussière à tel point qu'on n'était plus capable de l'identifier, enfin de le voir quoi, à la surface. Non, en fait, il est là exactement où on pensait qu'il était. Et toutes nos difficultés venaient du fait qu'on n'a pas atterri à l'horizontale.
La vie de Philae Superstar aura duré 10 ans et 60 heures. 60 heures, le temps de vie que ses batteries propres lui avaient donné et qui ont permis d'envoyer un paquet d'informations inédites sur la comète. Ouais. 10 ans, le temps de voyage, temps fatal, car les harpons censés lui assurer l'ancrage au sol au premier contact n'ont pas résisté à une décennie de froid intersidéral. Et parce que ces harpons ne se sont pas déclenchés, Philae est allé se coincer dans cette faille obscure de la comète.
Un retour sur Terre avec une perte colossale pour la faune et la végétation dans le sud de la France, où plusieurs incendies se sont déclenchés hier en fin de journée, et notamment au sud de Marseille, dans les Calanques et leur parc national. Le feu attisé par le Mistral a parcouru 350 hectares. L'Aude et le Tarn également touchés, plus de 800 pompiers mobilisés, pas de victimes à déplorer. Le temps de ce mardi 6 septembre, nuageux et parfois pluvieux au nord de la Seine, ensoleillé dans le sud. Au meilleur de la journée, il fera 22 degrés au Havre, 24 à Lille, 25 à Paris, 28 à Lyon, 29 à Marseille et 33 degrés à Nîmes, Guillaume Herner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Dans quelques instants, le billet éco consacré au bilan économique du quinquennat Hollande. Puis nous reviendrons sur la situation au Gabon en compagnie d'une chercheuse, Mathilde Debin.